En relisant mes notes avant de commencer cette première séquence, j'étais pris d'une espèce de vertige sidéral et théologique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vertige sidéral et théologique ? C'est ces moments, vous savez, qui sont parfaitement éphémères, mais ces moments où vous saisissez en quelques instants quelque chose de Dieu. Et ce que j'ai saisi dans ces quelques instants, c'était l'immensité de Dieu. Lui est le créateur de l'univers. Nous ne sondons pas la profondeur de l'univers. Lui, le Dieu dont je vais être appelé à parler maintenant. Quel vertige ! Est-ce que cette entreprise est possible ? Oui, elle l'est à cause de sa parole. Et ce Dieu si grand, ce Dieu si infini se révèle dans sa parole, et c'est par le moyen de sa parole que nous allons pouvoir avancer sur le thème « La grâce pour vivre ». Et pour vivre la grâce, il faut connaître le Dieu de grâce. Notre manière de vivre est intimement liée à ce que nous comprenons et à ce que nous voyons de Dieu. Mais qu'est-ce que la grâce ? Et en quoi notre Dieu est-il un Dieu de grâce ? Et je vous propose dans les minutes qui suivent de répondre à ces deux questions. Qu'est la grâce ? Et qui est le Dieu de grâce ? À partir de trois textes de l'Écriture, deux dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Et c'est progressivement au fil de ces lectures et de ces commentaires que nous aurons, en tout cas je l'espère, une vision un peu plus claire de ce qu'est la grâce et de ce qu'est le Dieu de grâce. Et c'est sans tarder que je vous propose une première lecture dans le livre du Deutéronome au chapitre 7, les versets 6 à 12. Si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment de sortir vos jumelles. Je lis dans la version du Semeur. Dieu qui s'adresse à son peuple, Israël. Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. L'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Et c'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qui vous a libéré de l'esclavage. Reconnais donc que l'Éternel est ton Dieu, le seul vrai Dieu. Un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qu'il aime et qui obéissent à ses commandements. Mais il rend leur dû directement à ceux qui le haïssent, et il fait périr sans tarder. Il paye de retour directement ceux qui le haïssent. C'est pourquoi obéissez aux commandements, aux ordonnances et aux lois que je vous donne aujourd'hui, et appliquez-les. Car si vous prêtez attention à ces lois, si vous y obéissez, si vous les appliquez, l'Éternel, votre Dieu, tiendra l'engagement de vous aimer qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec vos ancêtres. Quel est le critère selon lequel Dieu a choisi Israël d'après ce texte ? Parce que l'Éternel vous aime et qu'il est fidèle à son alliance. Israël n'a pas été choisi parce qu'il le méritait. Le texte est assez clair. Au verset 7, nullement parce que vous étiez plus nombreux. En fait, vous étiez les moindres d'entre tous, dit l'Éternel. Et l'Éternel exclut ici la raison qui pourrait faire croire que c'est en raison de sa taille, donc de sa puissance, donc de son prestige militaire, de son économie florissante ou politique, en comparaison avec les autres nations, ou à l'inverse, en raison de sa petite taille, donc de sa faiblesse, de son insignifiance, de sa vulnérabilité, finalement une sorte de pitié de Dieu à l'égard des faibles, que le regard de Dieu se serait porté sur Israël. La raison de ce choix ne se porte pas, ne se trouve pas du côté du peuple, mais du côté de Dieu. C'est un acte de la part de l'Éternel qui est un acte de bonté spontanée, un acte de générosité complètement gratuit à l'égard de ce peuple. Et c'est cet acte de bonté qui va fonder la relation entre Dieu et Israël. Et nous voyons dans ce motif un acte motivé par l'amour. Parce que vous, l'Éternel, vous aime. Et là, ces premières lignes, même si l'image est encore bien incomplète, nous saisissons déjà quelque chose de la grâce de Dieu et de ce Dieu de grâce. Dieu est un Dieu qui se plaît à témoigner sa bonté, à témoigner sa générosité, à témoigner sa miséricorde, indépendamment de tout mérite. Et en disant cela, nous disons quelque chose de la grâce de Dieu. Et le verset 9 nous le dit, « Reconnais donc que c'est l'Éternel, que c'est ton Dieu, le seul vrai Dieu. » Sous-entendu, celui qui vient de se déclarer dans les versets qui précèdent. C'est dans son caractère. Voilà pourquoi nous sommes appelés à parler d'un Dieu de grâce. Autre élément que je souhaite souligner dans ce premier texte que nous lisons ensemble, c'est ce qui se trouve au verset 9. Je le reprends. « Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu. » Un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qu'il aime et qui obéissent à ses commandements. Et la chose est reprise dans le verset 12. Si vous obéissez à ses lois, si vous les appliquez, l'Éternel, votre Dieu, tiendra l'engagement de vous aimer qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec ses ancêtres. Je vais paraphraser ce que Dieu dit à son peuple. Israël, je t'ai choisi. Si je l'ai fait, c'est parce que je t'aime. Et je t'aimerai tant que tu m'aimes et que tu obéis à mes lois, jusqu'à 1000 générations. Mais si tu me haïs, c'est-à-dire ne pas m'aimer, je te ferai périr. Et cela nous pose ici une question, une tension qui naît entre ce qui est dit à partir des versets 9 à 12 et ce qui a été dit dès le début de ce texte, au verset 8, « Parce que l'Éternel vous aime ». Si le choix sur Israël est un fait de sa grâce, ce que nous avons vu au verset 7, il semblerait que le maintien dans l'alliance est subordonné à une condition qui, elle, incombe à Israël. Et cette condition, c'est « Tu m'aimeras en retour et tu obéiras à mes commandements. » Est-ce à dire que l'amour de Dieu est conditionnel? Est-ce à dire que sa grâce est conditionnelle? Il me semble que, pour comprendre cette clause d'alliance, il me semble que l'explication serait plutôt dans ce que je vais dire. Si Dieu aime, la réponse attendue de celui qui est l'objet de l'amour de Dieu, c'est un amour réciproque et une obéissance à ses commandements. Vous savez, c'est un peu comme un objet métallique que l'on rapproche d'un aimant. Quand on le rapproche dans le champ magnétique de l'aimant, il est attiré par l'objet. Dieu aime Israël, le champ magnétique. Et si l'on entre dans cet amour, il y a une réponse, la réponse attendue à cet amour manifesté de Dieu, c'est un amour qui se traduit aussi par l'obéissance. Et il me semble que cela reflète quelque chose de la Trinité. Dieu est amour. C'est la matrice de base de la relation au sein de la Trinité. Ce qui fonde les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est l'amour. Et quand le Père aime le Fils répond par l'amour et l'obéissance. Quand le Père aime le Saint-Esprit répond en amour et en obéissance. Et étant créés en image de Dieu, nous sommes appelés à refléter également cette réalité dans nos relations et dans notre relation avec Dieu. C'est le moteur relationnel de l'alliance entre Dieu et ses créatures. Aimer de Dieu, la réponse attendue, est celle d'un amour réciproque et d'une obéissance. Et formulé sous la forme de conditions dans ce verset, cela pointe déjà en direction de l'incapacité de l'homme à répondre à cette attente et de la nécessaire justice de Dieu. Gardons cette tension entre la manifestation de la grâce, Dieu qui aime Israël indépendamment de tout mérite, et la question de cette condition réponse attendue à cet amour manifesté. Je vous invite maintenant à un deuxième texte que nous n'allons pas le lire parce que nous sommes à cheval sur plusieurs chapitres. Nous sommes maintenant dans Exode 32 jusqu'au chapitre 34 et c'est l'épisode du veau d'or. Regardons comment cette alliance va fonctionner concrètement dans la suite de l'histoire d'Israël, en particulier dans ces quelques chapitres, ces trois chapitres. Et donc je vais résumer les éléments saillants de ces passages qui chronologiquement se sont déroulés avant Deutéronome 7. Malgré les articles de loi de Deutéronome 7, Israël se fabrique un veau d'or taillé de toutes pièces par des mains humaines. Souvenez-vous, Moïse est sur la montagne du Sinaï, en train de recevoir les deux tablettes de l'Alliance. Et Dieu annonce à Moïse qu'Israël, qui est au bas de la montagne, est en train de se fabriquer une idole. Chapitre 32, verset 8. Dieu annonce à Israël, à Moïse, que sa colère va s'enflammer contre Israël. Il le dit dans ce verset, au chapitre 32, verset 8, « Je les exterminerai, dit Dieu à Moïse, mais je ferai de toi, et il parle ici individuellement à Moïse, je ferai de toi une grande nation. » Remarquez que Dieu est fidèle aux clauses de l'Alliance qu'il a explicitées en Deutéronome 7. Dieu annonce ce qu'il a dit. Il rend directement le dû à ceux qui le haïssent et il les fait périr, l'extermination, sans tarder. Il paye de retour directement ceux qui le haïssent. C'est pourquoi obéissez au commandement de l'Éternel. Et le moins que l'on puisse dire ici, c'est que Dieu, oui, Dieu est fidèle aux clauses de son Alliance. Les sanctions annoncées en Deutéronome 7 vont s'appliquer, je les exterminerai. Commence alors un dialogue surprenant entre Moïse et Dieu. Et Moïse va essayer de sauver une situation, celle du peuple d'Israël, qui ne peut l'être. Regardez, chapitre 32, verset 11. Je lis. Moïse supplia l'Éternel son Dieu en disant, « Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte ? Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. » Et j'aimerais faire quelques observations sur ce dialogue et sur ces éléments du chapitre 32 que je viens de mentionner. La première, notez que Moïse parle de son Dieu alors qu'Israël est en train de se fabriquer un Dieu. Et ça me semble-t-il à partir de cette connaissance de son Dieu que Moïse va plaider une cause qui juridiquement, à la lecture de Deutéronome 7, est perdue d'avance. Quel est l'argumentaire de la plaidoirie de Moïse ? Réponse, l'alliance. Non pas les clauses qu'Israël n'a pas respectées et qui la condamnent, mais Moïse va plaider la cause d'Israël à partir de ce qui fait le cœur de l'alliance, l'acte de grâce de Dieu envers Israël, parce que je vous aime et que je suis fidèle à mon alliance. Encore une fois, j'essaie de paraphraser ce dialogue entre Moïse et Dieu. Dieu, tu ne peux pas revenir sur une alliance dont toi seul tu en es l'instigateur. C'est toi qui as appelé Abraham. C'est toi qui as appelé Isaac. Pareil pour Jacob. Et c'est toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte. Et il y a manifestement un écho ici à l'appel de Moïse. Qui a été choisi pour cette mission ? Exode 4, Moïse, l'appel de Moïse. Moïse n'a rien demandé. Et souvenez-vous de ce dialogue, « Je suis disqualifié pour remplir cette mission ». Ce n'est donc pas la loi du Deutéronome 7 que Moïse met en avant, si tu obéis, si tu désobéis. Il s'appuie sur ce que Dieu a déclaré au début du Deutéronome, choisi par amour pour dire « Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple ». Alors que va faire l'Éternel ? Est-ce que vous percevez la tension qui est palpable dans le texte ? Si Dieu est juste, il extermine. Le sort d'Israël est suspendu à sa réponse. La réponse arrive au verset 35, pardon, au verset 14 du chapitre 35. Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. Au nom de quel principe ? Au nom de quoi Dieu renonce-t-il à l'exercice de son jugement, à l'exécution de son jugement ? Il y a quelque chose d'injuste dans cette histoire. Juridiquement, l'attitude de Dieu ne tient pas. Son acte, ici, est contraire à la loi qu'il a lui-même promulguée. À quoi bon énoncer des clauses, si tu m'aimes, si tu m'obéis, etc., pour ne pas les respecter par ailleurs ? Est-ce qu'on peut se fier à une loi qui n'est pas respectée dans son application ? Regardez dans un pays, quand le droit n'est pas appliqué, c'est toute la stabilité économique, sociale qui est en jeu. Est-ce que Dieu serait injuste ? Est-il en train de fermer les yeux sur une faute ? Est-ce que d'ailleurs la grâce est une forme de complaisance ? Est-ce cela la grâce ? Fermer les yeux sur une faute qui méritait un jugement de la part de Dieu ? Est-ce que l'amour est en train de se payer la justice ? Et nous devons répondre à cette question. Et l'incidence ici est majeure même pour notre vie. Si nous ne comprenons pas comment cet épisode va fonctionner dans la suite, est-ce que Dieu est injuste ? Est-ce qu'il est complaisant ? Si nous n'avons pas les idées au clair sur la manière dont Dieu répond à cette situation, nous aurons du mal à comprendre la grâce dans notre vie. Cela vous paraît peut-être un peu énigmatique, ce que je suis en train de dire. C'est le cas, mais vous allez le comprendre par la suite, si vous vous en souvenez. Pour l'instant, prenons simplement acte que nous enrichissons notre définition de la grâce. Oui, Dieu se plaît à témoigner sa bonté, sa générosité, sa miséricorde, alors même que nous méritions le contraire, Israël mérite la mort et c'est la vie sauve qu'il obtient. Ici, la grâce s'enrichit dans sa définition d'une faveur imméritée. La suite de notre texte. Encore une fois, je vous résume les éléments essentiels du récit. Après que Dieu ait renoncé à faire venir sur son peuple le malheur, Moïse réclame le pardon des péchés d'Israël, mais Dieu refuse la demande. Chapitre 32, verset 33. Alors Moïse se représente à nouveau devant l'Éternel. Ici, ça va être l'enjeu, viens avec moi, avec ce peuple. Je lis, si tu viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. La présence de Dieu au sein d'Israël est vue ici comme le signe du pardon des péchés accordés. Quel est à nouveau l'argument avancé par Moïse ? Si j'ai réellement ta faveur, toujours en écho à Deutéronome 7, un appel fondé sur la grâce. Réponse de l'Éternel, parce que tu jouis, toi Moïse, de ma faveur, et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. Et finalement, le peuple d'Israël va être sauvé à cause d'un seul homme. Parce que Moïse a la faveur de Dieu, ce Dieu qui l'a choisi. Et en raison de ce choix, tout le peuple va être au bénéfice de cette relation privilégiée. Et c'est ici une préfiguration manifeste du rôle du Christ dans le plan du salut. Un autre qui a la faveur de Dieu. Et qui va déployer un plan pour sauver l'humanité, Jésus-Christ. Et Moïse poursuit dans ce dialogue avec Dieu. Il reprend et il dit « Permets-moi de contempler ta gloire » et Dieu répond « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Et dans la suite de notre récit, chapitre 32, nous poursuivons la lecture. Dieu va renouveler son alliance avec Israël. La scène se passe encore une fois sur le sommet du mont Sinaï. Moïse gravit le sommet, et alors que Moïse gravit le sommet, l'Éternel descendit dans la nuée, il se tint près de lui, et proclama son nom. Ici, Dieu décline son identité devant Moïse, et il passe devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. » Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent et je ne punis pas la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième et même la quatrième génération. Ainsi Dieu accède-t-il à la demande de Moïse et à cause de Moïse, il va continuer de marcher avec Moïse au milieu de son peuple pendant les 40 années à venir dans le désert. Quatre remarques sur ce que Dieu dit de lui. La première, à la question « Permets-moi de contempler ta gloire », Dieu répond « Ma gloire, c'est ma bonté et ma grâce ». Qu'est-ce qui fonde la gloire d'un être humain ? Un homme couvert de gloire est reconnu pour un fait qui est remarquable et qui le singularise. C'est une définition de la gloire d'un homme. Quelle est la gloire de Marie Curie ? La découverte de la radioactivité. La gloire de Bill Gates ? Microsoft. La gloire de Federer ? Le plus vieux joueur de tennis, encore en compétition, avec autant de trophées à son actif. Annick m'a demandé de signaler que ce joueur est suisse, comme elle, c'est fait. Peut-être qu'être suisse est un titre de gloire. Quelle est la gloire de Mère Teresa ? Son combat auprès des plus démunis. Et la gloire de Dieu ? Ce fait remarquable qui le singularise casse, mais sa bonté et sa grâce. Voilà l'Éternel, notre Dieu. Deuxième remarque au sujet de ce que Dieu dit de lui, lorsqu'il est question ailleurs dans l'Ancien Testament de la grâce, nous y trouvons le même vocabulaire qu'en Exode 34, verset 6, donc dans ce texte où Dieu décline son identité. Compassion, bonté, passion, patience, fidélité à son alliance. Les actes de grâce reflètent ces qualités-là et voilà pourquoi nous pouvons parler d'un Dieu de grâce. Troisième observation, il persiste une tension entre cette grâce accordée et la gravité du péché et la nécessité d'une justice. Regardez ce que Dieu dit. Il dit « Je suis un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais... je ne tiens pas le coupable pour innocent. » Ici, nous apprenons un élément fondamental de la grâce. La grâce manifestée ne peut pas se dispenser de la justice. Et ici, nous avons un écho. Quand Dieu abandonne l'extermination d'Israël, alors qu'il le méritait, le fait-il par complaisance ? Manifestement non, parce que la justice doit passer. Et à ce stade, dans le livre d'Exode, nous ne savons pas encore comment la justice va passer. Enfin, dernière remarque, À la lecture de cet épisode, nous pourrions croire que Dieu fait exceptionnellement preuve de grâce et de compassion, de patience et de fidélité. C'est-à-dire que dans cet épisode, Dieu déploierait qu'une seule fois, ce serait une espèce de fenêtre de tir favorable pour Israël où Dieu est de bonne humeur. Ça peut le faire. Je me souviens quand j'étais enfant et que je voulais demander quelque chose à mes parents que je n'étais pas sûr d'obtenir, il valait mieux tenter le coup lorsqu'ils étaient de bonne humeur, dans la joie, après un bon repas, et ça pouvait le faire. Et cette crainte est d'ailleurs tout à fait réelle dans les cultes païens. Tous les rituels qui sont nécessaires pour apaiser le Dieu avant de lui formuler une requête. Mais à la lecture de l'Écriture, et si on élargit la perspective de notre texte ailleurs dans l'Ancien Testament, il n'en est rien du Dieu d'Israël. Ses qualités sont éternelles et intrinsèques à sa personne. Dieu est fondamentalement bon. Il est fondamentalement plein de grâce, il est fondamentalement plein de compassion, il est patient, il est lent à la colère, il est fidèle à son alliance. C'est dans sa nature. Et vous ne pouvez rien y changer. C'est ce qui fait que Dieu est Dieu. Vous connaissez cette formule, chasser le naturel, et il revient au galop. Si nous l'appliquions à Dieu, qu'est-ce qui reviendrait au galop ? Sa bonté, sa grâce, sa compassion, sa patience. Voilà le Dieu de grâce, voilà Dieu tel qu'il est. Et nous arrivons à notre troisième et dernier texte. Vous l'avez compris, notre démarche est progressive. Nous glanons progressivement des informations pour répondre à ces deux questions. Qu'est-ce que c'est que la grâce et qu'est le Dieu de grâce ? Et il nous faut bien sûr nous arrêter quelques instants sur l'ultime et sublime manifestation de la grâce, Jésus-Christ lui-même. Et avant de nous approprier personnellement ce Dieu de grâce et avoir une image la plus complète possible de ce qui se dégage de l'Écriture au sujet de ce Dieu de grâce, il nous faut parler de Jésus-Christ lui-même. Vous savez, la nature de l'homme n'a pas changé. Nous sommes idolâtres comme l'ont été les Israélites. Comme eux, nous sommes incapables de remplir les conditions de l'alliance, c'est-à-dire la réponse attendue à l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'obéissance. Et Dieu a aussi fait le choix de marcher au milieu de nous comme il l'a fait au milieu du peuple d'Israël. Il y a aussi eu un homme qui a obtenu la faveur de Dieu comme Moïse, avec pour conséquence qu'un autre peuple va être au bénéfice de ce Dieu de grâce. Un nouveau Moïse, plus grand que Moïse, parce que c'est Dieu lui-même qui s'incarne dans notre humanité. Et le prologue de l'évangile de Jean nous rappelle cette abondance de grâce manifestée en Jésus-Christ. Et les échos au récit d'Israël que nous venons de lire sont évidents. À nouveau, je vous invite à vous penchez sur ces versets de Jean 1, chapitre 14 à 18. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: voici celui dont j'ai parlé lorsque j'ai dit: celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Et les liens avec Exode 32 à 34 sautent aux yeux. Si vous ne les voyez pas, je vous les donne. Verset 14. Il a habité parmi nous, dans le texte grec, littéralement, il a tabernaclé parmi nous. Comme Dieu au sein de son peuple, avec le tabernacle pendant ces 40 années dans le désert où Dieu a dit « Je marcherai avec vous ». Et en Christ, ce n'est plus une manifestation de la présence de Dieu, mais c'est Dieu lui-même parmi nous. Parmi nous, peuple idolâtre, comme l'a été Israël. Et si Dieu a marché avec Moïse au sein d'Israël, ici, c'est Dieu lui-même en Christ qui vient marcher au sein du peuple de l'humanité. Dieu est en train de nous témoigner sa grâce dans les mêmes conditions qu'Exode 32 à 34. Parce que c'est l'extermination que nous méritions à cause de notre péché. Verset 14, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Tous les commentateurs s'accordent pour faire le lien avec Exode 34, verset 6, quand Dieu dit « Je suis le Dieu de grâce ». Vous vous souvenez de ce texte ? Quand Dieu décline son identité à Moïse, celui dont Jean parle dans le prologue, c'est le même. Jésus a le même caractère que Dieu. Il est Dieu. Et nous recevons ici avec joie ce mystère lumineux de la Trinité. Jean nous dit que Jésus est le Dieu d'Exode 34. Verset 16, il a déversé une grâce après l'autre sur nous. Mais pensons juste quelques instants au miracle de Jésus. D'abord des signes de sa divinité, des signes de l'inauguration du royaume, mais ces miracles ont aussi été les démonstrations de sa compassion et de son amour et de ses grâces. Si Dieu a donné la nourriture pendant 40 années par la manne au peuple d'Israël, dans la lecture de Marc 6 et de Marc 8, les deux multiplications des pains envers la foule, vous observerez que Marc nous rend compte des motivations de Jésus qui a opéré ces miracles. En Marc 6, première multiplication des pains, quand Jésus sort de la barque, il dit « ils étaient comme une foule sans berger ». Et Jésus était ému de compassion avec ce verbe grec qui dit « saisi dans les entrailles ». En Marc 8, c'est pareil, deuxième multiplication du pain, la foule suit Jésus depuis 3 jours et il n'avait rien à manger. Et Jésus fut pris de pitié pour la foule, dans le texte grec, « saisi dans ses entrailles ». Parce que Jésus, comme Dieu, manifeste sa bonté, manifeste sa compassion. Il n'est pas indifférent à nos souffrances. Il est Dieu, le même Dieu qu'Exode 34. Chez Luc, la prédication de l'Évangile est souvent appelée « message de grâce ». Et au verset 17, « Si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Et nous allons, en Jésus-Christ, trouver la résolution de la tension entre la nécessité de la justice exigée par la loi de Moïse et le déploiement de la grâce manifestée à la croix. Vous voyez venir la chose ? Sans tarder, contemplons la croix. À la croix, et par son ministère, sa vie, Jésus va accomplir toutes les conditions de Deutéronome 7. Amour et obéissance au Père. Souvenez-vous, dans Jean 14, Jean nous rapporte les paroles de Jésus où Jésus dit que sa plus grande joie, son plus grand plaisir dans sa vie, c'est quoi ? C'est de faire la volonté du Père, c'est-à-dire d'obéir au Père. Jésus va remplir les conditions pour que nous puissions être pleinement l'objet de la grâce de Dieu. Si je t'ai choisi, Dieu qui s'adresse à nous, c'est parce que je t'aime. Et maintenant, tu n'as plus à craindre ma condamnation parce qu'elle est passée sur mon Fils, Jésus-Christ. Si vous m'aimez, si vous obéissez à mes commandements, Deutéronome 7, verset 9, est bien impossible pour nous, hommes, mais accompli en Christ. La justice de Dieu va passer. Ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai, Exode 32, verset 9. Jésus a été exterminé à cause de notre place. Comprenez bien, nous méritions le châtiment. Nous méritions la juste sentence de Dieu. Nous sommes incapables de répondre à Dieu dans notre amour et notre obéissance pour lui. Accompli en Christ par sa vie et sa mort. La justice de Dieu passe. Jésus l'a pris sur lui en mourant à la croix. Non, Dieu n'est pas injuste quand il fait grâce. Non, Dieu ne se compromet pas quand il fait grâce. Non, la grâce n'est pas la complaisance. Oui, Dieu respecte les clauses de l'Alliance. Dieu, en Christ lui-même, remplit toutes les conditions pour que nous puissions jouir des grâces de Dieu. Et le pardon des péchés est maintenant une réalité. Le coupable n'est plus tenu pour innocent. Et nous pouvons dire que la grâce est double. La grâce est double parce que d'abord, le salut lui-même est donné par grâce. Nous sommes incapables de remplir les conditions du salut et Jésus le fait à notre place. Et en même temps, le déploiement du salut est un acte de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu déploie le salut motivé par quoi ? Motivé par un amour extraordinaire à notre égard. Je ne sais pas si vous réalisez ce que cela va impliquer dans notre vie. Désormais, il n'y a plus d'obstacle pour que nous soyons l'objet de la grâce de Dieu. Quelle est l'image que vous avez de Dieu ? Est-ce que vous craignez Dieu dans ses châtiments ? Si c'est le cas, peut-être que vous n'avez pas complètement compris la grâce. Et si nous nous saisissons de la croix et du salut qui découle de la croix, alors la réponse attendue de Dieu devient possible. Choisi et aimé par Dieu, je peux en retour, sauvé par grâce, moi-même aimer Dieu et répondre favorablement à ses commandements, parce que de surcroît, encore un autre geste de sa grâce, Dieu vient habiter en moi par son esprit et incline ma volonté. Il nous faut conclure, il nous reste quelques minutes. Mais retenons cette image de ce Dieu plein de grâce, de miséricorde à notre égard, qui nous aime d'un amour éternel et qui a déployé tout ce qui est nécessaire pour qu'il n'y ait plus aucun obstacle entre lui et nous, de manière à ce qu'il puisse nous choyer, nous aimer, prendre soin de nous. Pour conclure, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui est inventée, qui remonte il y a plus de 15 ans en arrière, un jour où je réfléchissais à une illustration qui pourrait, démontrer la portée de la grâce. Et j'ai trouvé une illustration. Et en 2004, j'ai entendu Donald Carson raconter la même histoire. Il me l'avait empruntée. En tout cas, j'étais plutôt content de l'entendre aussi dans sa bouche. Voici l'histoire. Vous la connaissez peut-être. En tout cas, les réfiens, vous m'excuserez, mais je l'ai déjà racontée dans un des cours. Mais elle est trop belle, cette histoire. Et elle est toute simple. C'est une histoire qui peut se dérouler dans notre pays. C'est un fait divers, odieux, qui secoue le pays entier. Voilà un homme qui est accusé de crimes sexuels sur un enfant. Ce fait divers fait la une de tous les journaux. On en parle au journal de 20h, les grands sujets politiques sont éclipsés le temps de cette annonce. L'enquête va très vite. Il s'avère qu'au bout de 24 heures, le criminel est arrêté. L'enquête judiciaire a été rapide, pour la bonne et simple raison qu'il y avait un ensemble de preuves qui étaient indiscutables et qui accusaient ce délinquant, ce criminel sexuel. L'ADN a parlé, il n'y a plus aucun doute. Cet homme est derrière les barreaux et il attend son jugement. Arrive le jour du jugement, vous imaginez la salle, les médias sont là, tout le monde se presse parce que l'on veut assister à ce procès, on veut voir la tête du criminel. Les parents de la victime sont dans la salle et ils espèrent croiser un moment le regard de celui qui a assassiné leur enfant. Voilà des années qu'ils attendent ce procès et ils espèrent beaucoup de la justice. Les différentes parties plaident la situation, mais même pour l'avocat de ce criminel, la partie est difficile parce que toutes les preuves, témoigne, accuse ce criminel. Et ce criminel, avant même de franchir le box des accusés, savait que son avenir ne serait pas en dehors de sa prison. D'ailleurs, si le même procès avait lieu dans un autre pays comme aux États-Unis, le criminel sait que c'est le couloir de la mort puis la chaise électrique qui va l'attendre. Le procès se déroule, les preuves sont démontrées, arrive le moment où la cour d'assises va devoir prononcer la sentence. Tout le monde attend, mais en même temps, personne ne se fait d'illusion. La sentence maximale sera prononcée sur cet homme. Le juge entre dans la salle, il fait lever l'accusé et il prononce la sentence. Dans le droit français, la perpétuité assortie d'une peine de sûreté d'une vingtaine d'années. L'atmosphère se détend, la justice est passée, cet homme a mérité ce qui lui était dû. Et vous imaginez ce qu'aurait été la justice si le juge avait fermé les yeux sur ce crime. Vous imaginez ce que l'on aurait dit de la justice ou ce que l'on aurait dit de ce juge si ce criminel était sorti libre. Parce que le juge aurait pu dire, mais finalement, il y a d'autres criminels dans la nature. Et toute la France, la famille, les avocats auraient crié à l'injustice. Et nous comprenons ici, sans avoir besoin de l'expliquer, que le crime nécessite la justice. Le scandale d'un crime, c'est quand l'injustice, c'est quand la justice n'est pas prononcée. Et là, il y a injustice. Alors que la sentence vient d'être prononcée, un homme se lève dans le public. Ce n'est pas un grand tribunal, une grande cour d'assises qui est là, c'est dans un petit département de la France, peut-être une centaine de personnes dans la salle, c'est un petit département où les gens se connaissent, et particulièrement les personnes du chef-lieu de ce département où les assises sont réunies. Voilà qu'un homme se lève. Cet homme, il est connu pour sa bonté. Il est connu dans la ville pour sa bienveillance. Il est bienveillant entre autrui, bienveillant dans son vocabulaire. C'est un homme que, si vous le croisez, il vous tient à la porte chez le boulanger pour que vous puissiez entrer. Et d'ailleurs, quand vous le croisez dans la rue, il vous dit bonjour. Et vous savez, c'est ce genre de personne, vous lisez la paix sur leur visage, souriant, de bonne humeur. Le genre de personne qui vous demande comment ça va, mais pas comme une question de politesse, parce qu'il y a véritablement un souci de l'autre. Comment allez-vous ? Et cet homme, dans cette grosse commune, dans cette petite ville, était connu précisément parce qu'il était bon. Vous imaginez la suite ? Cet homme se lève et il dit au juge : « Moi, je suis prêt à prendre la place de ce criminel. » Je vais m'acquitter de sa dette, je vais prendre à sa place ce que cet homme mérite. Personne ne discute, ne conteste la punition qu'il mérite. Et dans la salle, tout le monde dit, mais comment est-ce possible ? Pas lui ! Ramener un autre criminel éventuellement, mais pas cet homme qui est bon ! Mais cet homme accepte de prendre la punition du criminel, et il va aller en prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans. Si l'histoire se déroulait aux États-Unis, cet homme passerait par la chaise électrique. Encore faut-il que le coupable, le criminel, accepte cette remise de peine. Que fait-il ? Il accepte et le voilà libre. Contre toute attente, il ne le méritait pas. Il sort du tribunal libre. Et personne dans la rue ne pourra lui dire « Tu ne mérites pas cela. Pourquoi ?» Parce que la justice est passée. Un autre a payé. Devant cette affaire absolument extraordinaire, la presse a creusé un peu l'identité de cet homme, qui a donc accepté librement, sans aucune contrainte, de donner sa vie pour ce criminel, et il s'avère que c'est le fils du juge. Et il s'avère même que c'est le fils unique du juge. Inutile de vous expliquer le parallèle avec ma vie. Je suis ce criminel. Reste à savoir comment réagir, comment jouir de cette liberté une fois sorti de prison. Il y a deux possibilités. La première, c'est de se dire qu'il faut rembourser la dette. Devant cet acte de grâce immérité, ce criminel, pour le restant de ses jours, peut avoir une orientation de sa vie fondamentale qui va consister à dire « il faut que je me rachète, il faut que je me rachète, il faut que je démontre ma reconnaissance par mes actes. Et si je pouvais moi-même payer à la place ?» Et ça, c'est le cas de beaucoup de chrétiens qui ont compris la grâce dans le sens sauvé, mais qui ne vivent pas de la grâce. Si vous vivez de la grâce, c'est-à-dire, je vais dire ça différemment, précisément non, si vous vivez dans votre relation avec Jésus-Christ, avec une idée fondamentale qui est là dans les profondeurs de votre être, qui consiste à dire, il faut que je me rachète, il faut que je mérite l'amour de Jésus-Christ, vous êtes en dehors de la grâce. Dans ce cas-là, vous essayez par vous-même de remplir les conditions de l'amour et de l'obéissance. Et quand ça va bien, vous vous sentez super en forme et vous vous dites, mais Dieu fait bien de m'aimer. Il a bien fait de me choisir. Je suis meilleur que les autres. Et en général, quand on fonctionne comme ça, on se compare aux autres. Je suis plus spirituel que lui. Et là, en général, on témoigne peu de grâce à son prochain. Parce qu'on ne comprend pas qu'il ne soit pas aussi bon que moi. Ça, c'est quand ça va bien. Mais quand on tombe et retombe dans le panneau du péché, le réflexe dans cette manière de vivre, c'est de minimiser son péché et de faire accroire à Dieu qu'on n'est pas si mauvais que ça, ou alors qu'on va se racheter. Hein, un peu plus de prière, un peu plus de lecture de l'Évangile et en avant la musique. C'est vivre sous la loi. Et cette loi va vous accuser parce que constamment vous ferez l'expérience de l'incapacité de plaire à Jésus-Christ. Et c'est un usage de cette liberté, je reviens à mon criminel, il ne va pas vivre libre cet homme. Il va vivre esclave de lui-même. L'autre manière, et je termine par là, c'est de comprendre que tout a été payé. Mais quand je dis tout, c'est tout. Et que je ne pourrai pas, ni par ma spiritualité, ni par ma consécration à Christ, rembourser un centime de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour moi. Ce serait même une offense. C'est une manière de dire à Dieu, c'est pas tout à fait suffisant ce que tu as fait, il faut que j'en rajoute quelque chose. Mais si Dieu a tout payé, c'est que tout a été payé. Vous êtes libre. Libre parce que gracié par Jésus-Christ. Et donc Dieu n'est plus à craindre. Et parce que gracié par Jésus-Christ, vous êtes l'objet de sa bonté, de sa miséricorde. Dieu se plaît à vous aimer. Et quelle est la réponse possible, la seule réponse qui vaille quand on a compris la grâce? Mais c'est un amour réciproque. C'est de répondre par l'amour et l'obéissance. Qu'est-ce qui vous motive à obéir à Christ? La loi, la crainte de Dieu? Ou alors vous obéissez par profonde reconnaissance à ce que Christ a fait dans votre vie et à la croix? Vous ne pouvez pas comprendre la grâce si vous n'avez pas un regard juste et réel sur la gravité de votre péché. Nous méritions l'extermination de Dieu à cause de notre péché. Personne ne peut prétendre le contraire. Mais Dieu a tout payé. et alors je peux vivre libre. Et la chose est amplifiée d'autant plus que Dieu, je l'ai déjà dit, mais il faut le répéter à cet endroit, que Dieu vient habiter en nous par son esprit et qu'il va incliner notre volonté pour que nous puissions répondre à cette réponse attendue de Dieu, l'amour et l'obéissance. Et quand nous serons avec Dieu pour l'éternité dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y aura plus d'obstacle à cette réponse attendue. Choisie par Dieu, le choix est du côté de Dieu. Les critères m'échappent. Mais Dieu a rendu les conditions, a rempli les conditions pour que je puisse répondre favorablement et aussi dire, mais Seigneur, je t'aime, devant tant de grâces manifestées, je t'aime. Et c'est ça qui me motive à vivre pour toi. Et dans notre éternité, il n'y aura plus d'obstacles. Et c'est ici un élément de fils et fille de Dieu. Ce qui fonctionne dans la Trinité, Dieu est amour, le Père aime le Fils, la réponse attendue, le Fils aime et obéit. Nous serons dans le même schéma, de manière parfaite et pour l'éternité. Amen.